Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission de Good Morning Externa et c'est la dernière de cette année, alors il faut savourer. Aujourd'hui, on va se concentrer sur ce qui se passe au sein de l'établissement, actuellement et dans le futur, avec plein de nouvelles interviews et de reportages divers, concoctés par notre équipe de journalistes. Mais avant ça, un tout petit saut dans le passé, avec Diane et Isor qui ont interviewé un ancien élève, l'auteur Olivier Bourdeau, qui, je crois, revient sur ses souvenirs de l'externa avec humour et autodérision.
Oui, nous avons en effet interviewé Olivier Bourdeau. C'est un écrivain français, renommé surtout pour son premier roman, En attendant Bonne Jeune Girls, qui a été un énorme succès. C'est une histoire à la fois touchante et poétique qui explore les thèmes de l'amour et de la folie. Olivier Bourdeau, on l'interview aujourd'hui parce qu'il a fait une partie de sa scolarité à l'externat. On lui a d'abord demandé combien d'années il avait été scolarisé à l'externat et quelle avait été sa préférée. On l'écoute.
Alors, je suis resté un an seulement à l'externat des enfants nantais et j'ai été renvoyé pour manque de travail. Voilà, donc je ne peux pas choisir entre les différentes années puisqu'il n'y en a qu'une et elle a été abominable.
Pourriez-vous nous raconter une anecdote sur votre scolarité ?
Alors, l'anecdote sur ma scolarité, c'est une anecdote générale, c'est que ça a été un désastre total, complet et absolu.
Aussi, si vous pouviez changer quelque chose à l'externat, qu'est-ce que cela serait ?
C'est une bonne école. La seule chose qu'il fallait changer à l'externat des enfants nantais, c'était moi. Et Dieu merci, ils m'ont envoyé pour m'envoyer dans une école où j'étais aussi inadapté qu'à l'externat, c'est-à-dire Chavagne.
Quel est votre meilleur souvenir à l'externat ?
C'est tout simplement le jour où, en sortant du cours de biologie, où on apprenait la reproduction des oursins en milieu marin avec des gamètes mâles et femelles, j'ai décidé d'abandonner, c'est-à-dire que je faisais beaucoup d'efforts pour des résultats parfaitement médiocres et que c'était épuisant. Et j'ai décidé d'arrêter d'apprendre des choses qui ne m'intéressaient pas. Ça, c'est un excellent souvenir car c'est un grand soulagement.
Pendant cette année, avez-vous déjà dérogé au règlement de l'externat ?
Oui, sans trop le vouloir d'ailleurs, puisque je n'arrêtais pas de me perdre sans cesse, étant donné que l'arrivée en sixième signifie le changement de classe quasiment à chaque cours, le changement de programme d'une semaine sur l'autre. Et comme je n'arrivais pas du tout à me retrouver dans mon agenda et à me retrouver dans les couloirs, bien j'arrivais toujours en retard dans les classes. Et donc je me faisais toujours engueuler, puisqu'on pensait que c'était de la mauvaise foi ou de la mauvaise volonté ou un acte de rébellion. Mais bon, à l'époque, je n'étais pas insolent, j'étais seulement largué.
Aviez-vous un professeur préféré et si oui, quelle matière enseignait-il ?
Et vous a-t-il aidé dans la réalisation de vos projets ?
Il y a Monsieur Fleury qui, c'est ce que je raconte dans mon prochain livre, nous a demandé d'écrire une rédaction concernant nos vacances et il m'a foutu une note lamentable en se moquant de moi parce qu'il ne croyait pas une seconde à ce que j'avais écrit. Il y a toujours une chose positive, et je crois que j'avais 12 ans en 6e, et 30 ans plus tard, je parle de l'externat dans mon prochain livre, dans une anecdote qui plaît a priori beaucoup aux lecteurs, comme quoi toutes les expériences désagréables peuvent se transformer en farce pour en tirer quelque chose de positif.
Est-ce que le parcours professionnel que vous imaginiez lorsque vous étiez jeune collégien correspond à celui actuel ?
Est-ce que mes rêves de l'époque se sont concrétisés ? Ben évidemment, pas du tout. À 12 ans, je n'avais absolument aucune intention, même pas, je ne pouvais pas effleurer l'idée d'être un jour écrivain. Si j'avais dit ça à ce moment-là, je pense que les gens auraient ri comme des fous pendant au moins 2-3 ans.
Un grand merci à Olivier Bourdeau qui a eu la gentillesse de répondre à nos questions. N'hésitez pas à aller lire son nouveau livre, Développement personnel, qui est un peu comme ses mémoires, même s'il est encore très jeune. Développement personnel, c'est un roman plein de franchise et d'autodérision, dans lequel Olivier Bourdeau revient sur son enfance compliquée, sa courte et chaotique scolarité et le périlleux apprentissage du métier d'écrivain.
Merci Olivier Bourdeau, Diane et Isor. C'est maintenant l'heure de rencontrer quelqu'un d'incontournable à l'externat Chavagne, le chef de l'établissement. Monsieur Chauveau est arrivé à cette fonction il y a plus d'un an et demi déjà. Il nous dresse son parcours et son bilan au micro d'Eléa. On les écoute.
Bonjour Monsieur Chauveau et
bienvenue
dans notre émission donc, de radio. Donc déjà, qu'est-ce qui vous a amené à devenir directeur à l'externat Chavagne ?
Être directeur d'un établissement scolaire, c'est d'abord et avant tout une mission. Et cette mission, je la reçois de l'évêque et du directeur diocésain. Je ne choisis pas de venir dans un établissement scolaire, c'est l'évêque qui m'appelle. Ce n'est pas ici par choix personnel que je suis venu ici. Bien entendu, j'ai répondu favorablement à cet appel parce que je suis conscient que l'externat Chavagne est un très bel établissement. Le directeur diocésain n'hésite pas d'ailleurs à dire que c'est un fleuron nantais. Extraordinaire.
Ensuite, donc, quelles ont été donc, les difficultés auxquelles vous avez été confrontés au cours de la première année ?
Les difficultés sont souvent les mêmes quand on arrive dans un nouvel établissement. C'est d'apprendre à connaître toutes les personnes par leur nom. Aujourd'hui, c'est tout de même quasiment 200 personnels. 150 de professeurs, une cinquantaine de personnels OGEC. Personnels OGEC, ce sont des comptables, des surveillants, des secrétaires. Et se familiariser aussi avec les lieux. L'ensemble externe à Chavagne est vaste.
Oui, c'est très grand.
Et puis, c'est aussi être confronté à la difficulté de pouvoir identifier les élèves. Vous êtes nombreux, quasiment 2000 sur ce site. J'étais dans un établissement un petit peu plus petit avant. J'arrivais à repérer à peu près tous les élèves. Là, ici, pouvoir mettre un nom sur un visage, c'est pour moi un manque, une difficulté. Parce que j'arrive pas à identifier les gens comme je les voudrais.
Vous aimeriez pouvoir connaître plus d'élèves par leur nom, entre guillemets, dans l'examen ?
Oui, bien sûr. Donc c'est pour ça que j'assure encore une heure d'enseignement auprès d'élèves de 6e, dans le cadre d'un soutien. Je suis professeur de français au tout départ. Et puis j'assure aussi une heure de culture chrétienne auprès des élèves de première. Ce qui me permet d'avoir un contact avec les uns ou les autres.
Et qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur dans votre métier actuel ?
J'ai dit tout à l'heure que la fonction de chef d'établissement, c'était d'être une mission. Et ce qui me tient à cœur ici, dans cette mission, c'est de pouvoir être au service des uns et des autres. Des élèves, des familles, des personnels. Tous, à un moment donné, on rencontre une difficulté. On a besoin d'un soutien. La personne du chef d'établissement, comme d'autres d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que moi, on est là aussi pour apporter ce soutien. Chef d'établissement, c'est aussi donner des orientations, du sens. C'est toujours être celui qui essaie d'anticiper les choses. Pas toujours évident.
En parlant d'anticipation, quels seraient vos projets d'avenir pour l'externat que vous souhaiteriez impulser ?
Ah, ils sont nombreux, les projets d'avenir. Alors, on en met un certain nombre déjà en place. Depuis cette année, on a reçu l'accréditation Erasmus+, donc ce qui va permettre à vous, élèves, de pouvoir voyager en Europe avec une prise en charge par des fonds européens. Donc c'est une aide importante pour les familles. Alors il ne s'agit pas, bien entendu, de voyager pour voyager. Il y a derrière tout cela une vertu pédagogique et linguistique. Il y a aussi comme projet immobilier fort, que j'aurais aimé voir se réaliser en cours d'été. Un certain nombre de petits soucis là nous contraignent à le repousser d'un an. Il va se réaliser, mais ça ne prend pas la tournure que je voudrais.
Merci de nous avoir consacré un peu de votre temps, Monsieur Chauveau, en espérant que la suite se déroule pour le mieux pour notre nouveau directeur. D'ailleurs, en parlant de nouveautés, un collégien m'a dit que le petit collège allait être rénové. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous en avez entendu parler, vous aussi ?
Oui, étant donné que je suis élève de 5e, le projet était censé se dérouler cet été. Pour avoir un nouveau petit collège tout neuf.
Ok. Eh ben, pour plus de précision, notre fine équipe est partie enquêter sur le sujet et nous rapporte des scoops. D'abord, on a interrogé M. Chauveau, puis on s'est rendu dans le bureau le plus incontournable du petit collège, celui de Mme Dovez, qui nous donne plein de détails sur le futur projet.
Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de refaire entièrement le petit collège ?
Vous êtes élève au collège, vous êtes passé par le petit collège et vous avez vu, je crois, que les locaux étaient tout de même très vétustes. On aurait pu imaginer de les réhabiliter, c'est-à-dire refaire des peintures, refaire les isolations, changer les portes, les fenêtres, etc. Malheureusement, c'était beaucoup plus coûteux de refaire ces améliorations que de tout détruire et de tout recommencer. Donc si on se lance ici dans un projet ambitieux pour le petit collège, c'est parce que nous pensons qu'il ne répond plus vraiment aux attentes pédagogiques du moment. Et puis surtout, c'est une passoire énergétique. Donc on n'est pas vraiment ici dans l'air du temps.
Pourquoi est-ce que les travaux, ont été repoussés d'un an ?
Il y a deux raisons à ce report d'un an. Le premier, c'est parce que nous n'avons reçu que trop tardivement le permis de construire, et nous n'avons donc pas pu faire ce qu'on appelle les appels d'offres, c'est-à-dire solliciter des entreprises et de comparer les propositions qui nous seront faites pour lancer des travaux. Il m'aurait paru bizarre de détruire le petit collège et de ne rien pouvoir construire à l'issue de cette démolition. La deuxième raison, elle est plus contextuelle, il est important de tenir compte de ce contexte d'inflation et de prendre un peu de recul par rapport au coût de production, au coût des matériaux, au taux d'emprunt relativement important. Prendre une année de recul nous permettait de mieux comparer les prix pour ne pas engager l'établissement dans des frais et des coûts qu'on ne pourrait pas surmonter.
Donc bonjour Madame Devez.
Bonjour.
On aurait quelques questions qui concernent principalement du coup le projet du nouveau petit collège.
D'accord.
À quoi va ressembler le petit collège ?
Alors la première différence par rapport au bâtiment que vous connaissez maintenant tel qu'il est, c'est qu'il y aura davantage de salles de classe puisque le nouveau petit collège accueillera également les élèves de 4e. Donc il y aura 6e, 5e et 4e. Donc il y aura un niveau supplémentaire, donc forcément le bâtiment sera un petit peu plus grand avec plus de salles de classe.
Pourquoi est-ce qu'on a pris la décision d'ajouter les 4e au petit collège ?
Parce que ça va permettre également à ces élèves-là qui sont effectivement plus du côté du lycée, mais pas toujours dans des bonnes conditions et pas toujours dans des meilleures salles, de pouvoir bénéficier eux aussi du nouveau bâtiment. L'avantage de partir sur une nouvelle construction, c'est qu'on va pouvoir également y ajouter des nouvelles salles de musique, des nouvelles salles d'art plastique et peut-être de sciences. Ça va vraiment être bénéfique pour tout le monde, pour le petit collège.
Ça va permettre d'éviter les allers-retours entre le lycée et le collège pour les élèves du petit collège.
Et d'accord. Ce qui paraît aussi logique dans cette démarche de rajouter les élèves de 4e, c'est que Madame Gernoux étant la directrice des 6e, 5e et 4e.
En effet.
Voilà.
D'accord. Et alors vous, de quoi avez-vous le plus hâte dans le petit collège ?
J'ai un bureau qui est déjà très agréable aujourd'hui. Donc mes conditions de travail à moi, vraiment si je réponds de manière tout à fait égoïste, pour mon bureau, j'ai pas spécialement d'attente en particulier puisque mon bureau me convient très bien comme il est aujourd'hui. Maintenant, dès qu'on sort du bureau, bien évidemment, pour tout ce qui est salle de classe, pour tout ce qui est confort de travail des enseignants et des élèves, je le vois tous les jours de différentes manières, que les travaux deviennent vraiment extrêmement urgents. Donc ça va être aussi bien des fenêtres qui ne ferment plus, ça va être des fuites dès qu'il pleut, dès qu'il y a du vent, des problèmes d'isolation, dès qu'il fait un peu beau, il fait trop chaud, dès qu'il fait froid, il fait trop froid. Toutes les salles ne sont pas bien chauffées, toutes les salles ne sont pas bien aérées. Il y a certaines salles qui sont un petit peu l'humidité. Donc, c'est clair que moi, j'ai hâte de voir les élèves et les encadrants travailler dans des beaux locaux dans lesquels ils sont contents de venir le matin et dans lesquels ils sont ravis de venir travailler.
C'est vrai que de beaux locaux, ça permet d'avoir envie de travailler et du coup, ça pourra redonner de la motivation aux élèves. Quand le petit collège va donc être détruit, le temps des travaux, comment est-ce que les cours vont-ils se dérouler ?
Ça va se passer. Normalement, si tout se passe comme prévu, et c'est ce qu'on espère, il est prévu que les travaux ne dépassent pas 18 mois, 2 années scolaires grand maximum, et les élèves de 5e seront répartis certainement du côté du lycée dans différentes salles, ce qui les obligera peut-être à quasiment chaque heure être obligés de changer de salle de classe, mais ça on verra au niveau des aménagements d'emploi du temps pour leur faciliter la vie le plus possible. Et pour les élèves de 6e, ils seront dans des préfabriqués qui seront mis au niveau du stade, sur la cour, mais on est sur des choses quand même de qualité, qui sont des vrais préfabriqués, de taille de salle de classe, pour que ces 2 années-là se passent dans des très bonnes conditions. Vu l'état de la plupart des salles de classe du petit collège aujourd'hui, franchement, les préfabriqués, ça vaudra bien les salles de classe du petit collège aujourd'hui.
Du coup, ça veut dire qu'il n'y aura plus de cours de récré ?
Alors si, parce que ça ne va pas prendre l'intégralité de la cour de récré, c'est-à-dire que ça sera des préfabriqués qui seront disposés par étage,
Ok.
Voilà, donc comme si c'était un bâtiment de 2-3 étages, puisque aujourd'hui, les préfabriqués, c'est des choses qui peuvent être vraiment être superposées pour gagner de la place au sol. Mais c'est vrai que oui, c'est vrai que sur les temps de récréation et les temps du midi, ça va changer pas mal de choses. Il va falloir s'organiser, mais on va y arriver, il n'y a pas de raison.
Du coup, je pense que vous avez répondu à ma dernière question. C'est est-ce que vous appréhendez ou est-ce que vous attendez plutôt le petit collège ?
D'accord, d'accord. Alors moi, pour avoir vu un petit peu quand même les plans du futur petit collège, j'ai super hâte de voir parce qu'en fait, le bâtiment, s'il est vraiment ce que j'ai vu sur les plans, il va être hyper beau. Il va être vraiment très beau avec des matériaux qui vont être quand même plus nobles qu'aujourd'hui. Donc avec du bois, avec certainement des parties végétalisées, des grandes ouvertures, donc très lumineux. Donc moi j'ai hâte juste de voir ça de manière purement bâtiment architectural. Et franchement au niveau des inquiétudes et des angoisses, j'en ai pas parce que je pars du principe que ça ne sert à rien d'en avoir puisque de toute façon ça va rien changer du tout. Et que encore une fois, je travaille dans un environnement où j'ai complètement confiance en les gens et avec l'équipe avec laquelle je travaille. Donc, s'il y a des choses qui vont changer, je sais que de toute façon, ça sera fait de manière intelligente, de manière bienveillante et pour le bien de tout le monde.
Bon, bah c'est super. Bah, alors, ça nous donne hâte aussi que le nouveau petit collège arrive. Donc, les travaux ont été reportés d'un an, de ce qu'on a pu comprendre avec l'interview avec M. Chevaux. Oui. Mais du coup, ça ne nous donne qu'encore plus envie
Exactement.
Qu'il arrive.
Tout à fait.
Eh bien, ça en fait des informations. J'espère que vous avez tout compris. En tout cas, prenez un peu de temps pour y réfléchir, parce que c'est quand même très cool. On va continuer en parlant du projet Éloquence. Mais d'abord, il faut se poser une question. Qu'est-ce que c'est ?
Projet Éloquence, en fait, nous l'avons monté avec Madame Lemallier, puisqu'il prend la suite en fait, du projet SLAM, qui est mis en place en quatrième. Donc le projet Éloquence, c'est pour les secondes, pour les entraîner au grand oral en terminale. Et en fait, c'est un concours interclasse qui permet aux meilleurs d'être retenus et leur projet avec, puisqu'il y a un projet à défendre à la clé dans ce projet Éloquence. Et nous l'avons créé pour améliorer effectivement l'oral, l'oralité des élèves.
Il y a quelques semaines, avec Polo, on s'est demandé, mais au fait, que sont devenus les projets qui ont remporté le concours ?
Donc déjà, on trouvait ça important avec Auxence de se poser la question, mais qu'est-ce que ça devient du coup ce projet qu'on pourrait croire a été laissé à l'abandon ? Et on va voir que pas du tout.
En effet, on va vous laisser avec Madame Le Baron, qui était jury des présentations orales des secondes, en tout cas de l'année dernière. Vous expliquez donc ce qui a été proposé et qui sont les vainqueurs de ce concours.
Alors l'an dernier, si je me souviens bien, les secondes qui avaient gagné, donc il y avait Tom et Thomas pour le projet Ruche, qui était en troisième. Kylian et Isilde pour le projet cinéma et Clarisse et Clémence pour le projet yoga relaxation. Pourquoi ces projets-là ? Alors il y a un mélange de, je dirais, de bons arguments et aussi de prestance à l'oral. Les garçons Tom et Thomas, ils l'ont fait avec beaucoup d'humour. Et le projet Ruche, c'est un projet qui me touche aussi parce que c'est lié à l'environnement. Il y avait de l'idée, il y avait de la résonance et comme je disais, beaucoup d'humour. Et le cinéma, c'était un projet collectif et culturel, donc très intéressant, on était complètement sur autre chose. Ils ont embarqué le public, ils sont montés sur les gradins, donc ils nous ont assez impressionnés. Et puis le yoga, je pense que ça, c'est un petit peu plus personnel. Alors il n'y avait pas que le yoga, il y avait de la relaxation aussi. Les filles nous ont fait une petite présentation, il y avait de la musique à un moment aussi, donc elles nous ont embarqué dans leur univers et c'était très sympathique. Il y avait le projet de Justine qui était très intéressant, en plus elle est passée toute seule devant toute l'assemblée, pour parler de son projet de pièce seconde vie. En fait le principe c'est d'ouvrir une pièce à l'externat dans laquelle on exposerait des objets dont on ne se sert plus, des vêtements, des... n'importe quel objet, des livres, voilà, qui sont à disposition. C'est en libre accès, le but c'est que ça soit gratuit. Par exemple, on ne met plus une veste, hop, on la met. Bah, c'est d'ailleurs, l'exemple que Justine avait utilisé, c'était une veste qu'on ne met plus dans notre placard. Et puis, bah, on peut la mettre en service dans cette pièce et les gens viennent se servir. Et alors, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui. Ça, on en avait parlé avec les jeunes pousses, en tout cas, pour le mettre en place. Donc, j'espère que ça se fera l'année prochaine. Je pense que c'est important déjà d'écouter les idées de nos élèves, parce que si c'est remonté au projet d'éloquence, c'est que ce sont des besoins, des envies. En plus, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Madame Musso, qui est coordinatrice vie scolaire au niveau du lycée et de la 3e. Et elle met en place justement ce genre de projet. Donc, par exemple, la relaxation, ça, elle en a mis en place cette année, certains ateliers.
A été mise en place plus ou moins partiellement donc celui du yoga et de la sophrologie, puisque cette semaine, nous avons une semaine de bien-être au lycée avec les élèves qui faisaient des cours de yoga, de sophrologie aussi animés par la fermière. Le ciné-club, malheureusement, n'a pas vu le jour, parce que ça demande du temps, il faudrait un enseignant en face. Et le troisième projet qui est le mien, là, ne pourra pas être appliqué, puisque malheureusement, il nous faut un apiculteur sur place et ça sera très compliqué. Si elles avaient lieu, ils avaient prévu en fait sur les toits là, les toits terrasses qu'on a en fait à l'externat. Ça existe dans un autre lycée hein, que j'ai connu puisque j'ai travaillé 11 ans au Lokidi et le Lokidi est arrivé à mettre sa propre production de miel là, avec des ruches sur le toit du Lokidi. Donc ça peut être quand même réalisable.
Et après, ce miel sera revendu
aux élèves et aux professeurs et à toute la communauté éducative. Projet de Justine, elle avait inventé un projet d'une pièce où tous les élèves ramèneraient des vêtements, des chaussures, des objets qui pourraient avoir une seconde vie auprès d'autres élèves. C'est très en vogue avec tous les sites Vinted et tout ça. Lui verra le jour peut-être.
Pour y avoir assisté, je confirme, c'est très impressionnant et c'est très marrant de voir passer ses camarades à l'oral. Bien sûr, on est tous dans un esprit de camaraderie et... Sans se moquer les uns des autres, alors c'est très agréable. À présent, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Préparez vos voix et vos meilleures dissertations sur l'école de demain, parce que c'est le thème demandé. Les oreilles du personnel de l'externat n'attendent que vous. D'ailleurs, en parlant de personnel, Marnie et Sophia avaient à cœur de tendre le micro à celles et ceux que l'on croise tous les jours, mais avec qui on a peu l'occasion de papoter. Cette fois-ci, elles se sont entretenues avec le chef cuisinier, Jérôme Jolivet, qui s'active au self chaque midi pour remplir nos estomacs et nous accueillir avec le sourire.
C'est vrai que Sophia et moi mangeons régulièrement à la cantine et je pense que comme tout élève, nous nous posons la question de savoir ce que contient notre assiette. Juste par curiosité ou peut-être par envie de rencontrer nos chers cuisiniers pour les remercier. Donc j'ai posé quelques questions à notre chef cuisinier. Je vous laisse écouter.
Voilà, je me présente, Jolivet Jérôme, je suis le chef gérant de restaurant scolaire ainsi que le restaurant des adultes. Ça fait bientôt 2 ans que je suis aux externats et voilà.
Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ?
Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est le contact avec les élèves. Le fait de leur faire à manger et de vouloir faire surtout, ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est de faire plaisir. C'est-à-dire faire plaisir aux gens, leur donner envie de manger, leur faire des bons repas, voilà. Et puis, c'est travailler la nourriture, c'est un métier artistique, donc ça nous demande un peu de côté artistique, un peu le côté le goût, voilà, les belles choses. On a la chance de travailler des produits frais, des choses comme ça, donc c'est plutôt agréable.
Et donc, pourquoi êtes-vous cuisinier dans un établissement scolaire ?
D'une, parce que j'aime bien les enfants, donc j'aime bien leur faire plaisir, tout ça, j'aime bien le milieu scolaire. Et puis de deux, c'est des métiers qui sont très compliqués, où souvent on travaille le week-end, souvent on travaille le soir, voilà. Donc le milieu scolaire nous permet quand même de travailler que le midi, d'avoir notre samedi dimanche, d'avoir les jours fériés, les choses comme ça, chose qui est très rare dans les restaurants classiques. Donc il y a aussi ce côté vie privée qui est très appréciable. Enfin, moi, je peux lier mon métier que j'adore avec ma vie privée. Je peux voir mon fils, je peux voir mon épouse. Voilà. Travailler 30 ans dans la restauration hôtellerie traditionnelle, où là, je voyais très peu mon épouse parce que je travaillais du soir, je travaillais le week-end et tout ça. Et il y a un moment dans sa vie, on choisit un autre chemin pour pouvoir un peu profiter aussi de sa famille.
Comment se déroulent vos journées habituellement ?
Alors, les journées, se déroulent très simplement. J'arrive à 6h30 le matin. Je réceptionne les légumes frais, tout ça. Je réceptionne la laiterie, les viandes, tout ça. Après, je fais la pâtisserie, puisque moi, mon principal métier, c'est pâtissier. Donc, moi, je fais toute la pâtisserie pour les élèves, pour les adultes, tout ça. J'organise la journée au niveau de la cuisine. Après, pendant le service, soit je suis un peu au service, soit je suis un peu dans mon bureau pour faire les papiers. Et puis après, l'après-midi, je mets en place pour le lendemain. Il y a quand même 1200 desserts à faire. Donc, j'en fais un peu l'après-midi. Je fais de la mise en place l'après-midi pour le lendemain. Et après, je finis comme on vous voyait ici. Après, c'est ce qu'on appelle la partie administrative.
Et comment vous choisissez le menu de la semaine ?
On reçoit une trame de menu qui nous sont envoyées par... On a, dans notre société, on a des diététiciennes qui nous envoient une trame de menu. Alors après, moi, je les transforme, parce qu'il y a des choses que vous n'aimez pas obligatoirement. Donc au lieu de faire des choses que vous n'aimez pas, on essaye de trouver quand même un compromis, même s'il faut que vous goûtiez à tout. Généralement, on fait ça presque 6 mois à l'avance. C'est-à-dire que moi, mes menus, là, sont établis jusqu'à Noël. Ensuite, moi, je fais les menus, je les renvoie à la diète, qui les valide ou pas, qui fait des changements, parce que soit c'est trop gras, soit c'est pas assez équilibré, des machins comme ça. Et après, on valide les menus ensemble, en sachant que j'ai 5 féculents à vous faire prendre dans la semaine. Donc c'est vrai que c'est très compliqué si on veut pas... Sur les haricots, vous ne jetez pas dessus. Le boulgour, c'est pas extraordinaire. Le blé, c'est pas génial. Donc patates, semoule, riz, pâtes, ça va... On a vite fait le tour, quoi. Donc les lentilles, c'est pareil. Mais bon, ceci dit, je suis assez surpris aussi du fait que vous mangiez un peu de tout, quand même. Là-dessus, je dois reconnaître que, voilà, même s'il y a des choses que vous appréciez plus que d'autres, mais au moins, j'ai le plaisir de voir que à chaque fois qu'on fait à manger, vous mangez plutôt bien, quoi.
Est-ce que vous pouvez nous raconter un souvenir marquant à l'externat ?
Bah, c'est quand on a fait l'animation, je sais pas si vous l'avez vécu, l'animation médiévale l'année dernière. On avait décoré toute la salle, je sais pas si vous l'avez connu, ça c'était super sympa. Enfin, c'est par rapport à toutes les actions que vous faites aussi, comme le passage de la flamme, ça j'ai trouvé ça génial cette année. C'était super sympa de vous voir tous en ligne, tout ça, parce que nous, il n'y a pas que l'effet de cuisine qui sont importants pour nous, mais il y a aussi le fait qu'on vous voit faire plein de choses, et c'est vraiment c'est super sympa, quoi. Et puis même, tout ce que vous organisez, les ventes de viennoiseries, tout ça, c'est super sympa, quoi.
Merci Sophia, merci Marnie, et surtout, merci à l'équipe de restauration de l'Externat pour votre travail. Avant de finir cette émission par une surprise d'Anne-Marie, notre rédactrice en chef, on fait une petite pause littérature. Dans le cadre du prix littéraire interlycée Rayonnante, qui s'organise en seconde avec Monsieur de Villard, nos journalistes littéraires préférés Victoria et Isor ont interviewé Anthony Passeron, ancien professeur de lettres et d'histoire géo, et est l'auteur d'un premier roman intitulé « Les enfants endormis ». Il nous parle de son rapport aux rencontres dans les lycées.
Le lectorat en France est plutôt féminin et plutôt âgé. Et là, tout d'un coup, quand vous vous adressez à une classe de lycée, bah, tout d'un coup, vous vous adressez à un lectorat qui n'aurait peut-être sans doute pas rencontré votre livre avant de longues années, etc. Et que cela, ça participe vraiment de diffuser le livre. Et surtout, en plus, accessoirement, c'est que... On ne lit pas un livre en lycée comme on le lit dans la population générale, parce que souvent, le professeur de français, le professeur documentaliste va lire le livre à travers un prisme bien précis qui est le référentiel de son programme. Donc ça va être des chapitres de français, des chapitres d'histoire géo auxquels la lecture du livre va pouvoir apporter un éclairage particulier. Donc c'est pour ça que les rencontres en lycée sont d'autant plus intéressantes que je rencontre un lectorat que j'ai pas l'habitude de voir, et en plus c'est vraiment au sein des établissements scolaires qu'on me pose les questions les plus pertinentes. Souvent les élèves sont très timides, ils osent pas poser leurs questions, mais c'est vraiment les lycéens qui posent les questions les plus intéressantes pour l'auteur.
Victoria et Isor l'ont ensuite questionné sur l'impact d'éventuelles critiques négatives.
Avant la publication, je fais lire à des gens dont la vie m'importe beaucoup, qui peuvent être des proches, des amis. Et après, il y a le travail avec l'éditeur qui va lui aussi être un lecteur qui va proposer soit des modifications, des améliorations ou simplement valider un choix que j'ai fait. Et après, dans l'ensemble, avec les enfants endormis, on a quasiment, je dis bien quasiment, eu que des retours positifs. Ce qui ne m'empêche pas d'être en partie insatisfait, parce que c'est un roman que j'ai écrit il y a 2 ans. Et aujourd'hui, quand je relis les enfants endormis, il y a plein de choses, plein de phrases que je voudrais changer, des choses que je voudrais préciser, etc. Donc on est en critique permanente. On a eu très peu de retours négatifs. On en a eu, notamment un historien spécialiste du sida, qui trouvait que j'avais pas assez insisté sur la violence de l'époque, etc. Et c'est une critique qui m'a touché, parce que c'était un historien auquel je m'étais pas mal référé pour essayer justement d'avoir une dimension historique fidèle à la réalité dans le roman. Donc c'est jamais très agréable. Je me suis un peu senti comme un élève quand le professeur rend une copie en disant « bon, c'est pas mal, mais t'aurais pu faire mieux, quoi ». Et c'est vrai qu'on vit dans un monde où, notamment à la faveur des réseaux sociaux, on peut recevoir énormément de retours de lecteurs. Et quand ils sont essentiellement positifs, c'est vraiment une drogue à accoutumance. Et du coup, quand il y a un retour négatif, il faut se faire violence pour être en mesure de le recevoir, parce que dans la critique négative se cachent souvent des choses beaucoup plus utiles que dans la critique positive. Elle nous permet de nous interroger, de nous réinterroger sur le geste d'écriture qu'on a eu. pour confirmer ou infirmer ce qu'on a fait, pour se demander si on est toujours en accord avec ce qu'on a fait.
Merci Anthony Passeron et merci les filles pour tout ce travail effectué et de nous tenir au courant des dernières actualités de la littérature. Mais je crois qu'Anne-Marie a prévu de finir l'émission avec un petit quiz.
Ouais. En fait, pour la dernière émission, j'avais envie de créer un moment où on pouvait tous parler autour du micro et vraiment échanger plus que partir chacun de notre côté avec notre petit enregistreur. Du coup, j'ai préparé une sorte de quiz. Parfois, il y a des propositions de réponses, parfois pas, autour de, évidemment, comme thématique, l'émission radio et l'externa. Et puis bon, c'est un peu genre la dernière émission de l'année. Donc... je me suis dit qu'un peu de fun ne nous ferait pas de mal. J'espère que vous avez été attentifs, attentives tout au long de l'année.
Oui.
Bien sûr.
Ouais, vous avez réécouté les émissions ?
Bah, étant donné qu'avec Anto, on est arrivé en plein milieu d'année.
Est-ce que tu as écouté l'émission
oui,
numéro 1 ?
Écouté. J'ai écouté 1, 2.
Super. Et bon, nous sommes en train de faire la troisième.
Il est bête.
Du coup, première question. Dans l'épisode précédent, un ancien élève nous a raconté qu'il y avait eu une mascotte à l'externat dans les années 70. Est-ce que c'était Marcel le Ragondin, un chien surnommé Rio ou Jaco le Perroquet ?
Moi, je sais, je vais rien dire.
Vas-y, je t'en prie.
Jaco le Perroquet.
Madame Auger a raison. Est-ce que vous l'avez ?
Je l'ai interviewé, oui, je m'en souviens même pas.
C'est vrai, tu t'en souviens ?
C'est moi qui l'ai fait interview.
Moi, je l'ai parce que dans le livre, il y avait cette mascotte.
C'est vrai ? C'était ouais. Dans le livre aussi. Mmh. Okay.
Moi, je l'avais parce que ça m'avait... Je l'avais entendu, ouais, ça m'a marqué.
Ah, moi, je l'avais pas.
Merci, Paul.
Je pensais que c'était Marcel le Ragondin.
Après, on est à côté de la chaisine, donc...
Makes sense.
Ça passe.
Incroyable.
Selon vous, quelle est la personne la plus difficile à avoir en interview à l'externat ? 1. Monsieur Parson. 2. Monsieur Azo. 3. Le fantôme de l'externat.
Monsieur Azo.
Monsieur Parson.
Le fantôme de l'externat.
Non, mais le fantôme de l'externat, il est avec nous en ce moment, tu n'entends pas.
Bon, je pense qu'il n'y a pas de...
Monsieur Parson, meilleur prof.
Très, très bon prof, mais qui, du coup, veut rester discret. Du coup, on lance le challenge pour la future équipe radio de l'année prochaine. Essayez d'interviewer l'une de ces trois personnes.
Oula,
on verra.
Bonne chance à vous. Hein.
Quand le petit collège sera en travaux, où auront lieu les cours des sixièmes ? Sur les toits terrasses de l'externat, là où auraient pu être d'ailleurs mises les ruches, sur le stade ou alors au bord de la chaisine ?
Sur le stade.
Je l'ai dit en premier.
Je l'ai dit en premier.
Tout le monde savait déjà.
On est trop fort, je te dis.
Mais en même temps, Madame Dovez nous a donné beaucoup de scoops. Est-ce que vous pourriez me citer une chose que vous avez apprise sur l'externat au cours de vos enquêtes radiophoniques ?
Les salles secrètes, c'était super, franchement.
Ouais. Moi, je suis d'accord. Je trouve que j'ai découvert plein de choses sur l'externat avec les salles secrètes.
Mmh. Moi, le moment que j'ai préféré, c'est vraiment apprendre sur l'histoire de l'externat. Les trucs
avec l'ancien élève ouais. Que tu as fait.
Quand nous, on n'était pas là, je trouve ça vraiment intéressant de savoir ce qui s'est passé avant. Et puis même la création.
Ah ouais. Dernière question, s'il fallait choisir un nouveau nom pour l'émission de l'année prochaine, est-ce que vous avez des idées ?
Ereden.
Ereden ?
Moi, je reste sur Good Morning Externa. Hein. Ouais.
Oui, mais comme c'est une idée de Justine, on va pas la garder.
Après, moi, j'avais aussi pensé à Externa Plus.
On dirait du streaming.
Canal Plus.
Grave. On se fait des thunes.
Ou alors Eden Plus.
Je sais, on s'appelle Netflix.
Non.
Nous, c'est gratuit. Oh, ouais, non, Paul, il y a une bonne idée. Vas-y, redis ça.
Gossip Externa.
Bah, du coup, j'adore. Je vote pour.
Gossip Externa.
Gossip Externa, ça fait vraiment très... magazine people, quoi.
Mais c'est nous. Évidemment.
Non, c'est toi, Justine.
Oui, bon, c'est pour ça que je suis là, moi.
C'est Paul qui a proposé. Hein.
Je voulais aussi finir cette émission en remerciant toutes les personnes qui ont accepté de répondre aux questions de nos élèves journalistes.
Oui, merci.
Bravo.
Tout au long de l'année.
Merci à vous.
Je voulais aussi vous remercier, vous. Merci à tous les participants de l'atelier radio. C'était trop plaisir d'apprendre à vous connaître.
Merci
et
à moi.
Autrement que dans la posture surveillant élève, etc. Et puis, j'espère que ça vous donnera envie de continuer, si ce n'est faire de la radio, mais juste continuer à poser plein de questions. Et Auxence, je te laisse le mot de la fin.
Ah, voilà, c'est ainsi que s'achève la dernière émission de l'année scolaire 2023-2024 de Good Morning Externa, ainsi que ma carrière pourtant florissante et prometteuse d'animateur radio. Oui,
non.
Je vous quitte, chers auditeurs et chère équipe. Vous ne sentirez plus jamais ma douce voix rauque chatouiller vos oreilles aux grandes dames de celle-ci. Pour finir, je laisserai la parole à qui veut terminer l'émission. Moi, je n'ai plus qu'une chose à vous dire. Au revoir.
C'était un grand plaisir d'être avec vous. Et maintenant, on va manger le brownie.
Moi, je trouve que c'était incroyable. Et franchement, vraiment, que ce soit dans le théâtre ou dans le web radio, on a une équipe super. J'étais trop heureuse d'être avec vous cette année. Mais vraiment, moi, je trouve ça important d'y dire parce que... voilà, merci beaucoup.
On va pas mentir, c'est le feu. N'hésitez pas si vous avez vraiment envie de venir. C'est une occasion à pas rater l'année prochaine.
Chance.
C'est une chance, c'est
et
sûr.
On recrute pour l'année prochaine, sachez-le.
Oui, et moi, je voudrais aussi remercier... Madame Auger et Anne-Marie, qui nous ont encadrés tout le long de cette année.
C'était trop bien.
Merci, c'était trop émouvant.
Ouais. Wow. Moi, j'ai deux choses à dire pour terminer. D'abord, bonne chance Anne-Marie du futur pour le montage.
Merci.
Oh, la vache, oui.
Et la deuxième, c'est ciao.
Allez, bisous.